Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Air Divois et c'est l'heure de l'interview avec au studio Monsieur François Lauzet. Bonjour.
Bonjour.
François Lauzet, vous êtes ici pour nous parler d'un stage d'écriture de fiction que vous proposerez sur 3 dimanches, les 1er 15 février et 1er mars. Ça sera en journée de 10 à 17 heures et ça permettra d'écrire donc des fictions fantastiques ou réalistes et en s'inspirant peut-être de ce qui nous entoure ou de ce que l'on peut aussi peut-être pressentir. Quelle est cette démarche et puis à qui s'adresse-t-elle ?
Oh, ça s'adresse à peu près à tout le monde qui aime lire et écrire. Ça prend en compte l'ensemble des fonctionnalités narratives qui nous permettent de raconter des histoires, c'est-à-dire en réalité de donner un sens au passage du temps en rassemblant des événements, en causes et conséquences, etc. En fait, chaque petite histoire, c'est une petite miniature horlogère qui nous permet de passer d'un début à une fin, du tic de début au tac de la fin. C'est vraiment une question d'articulation de nous au temps. Donc c'est juste ce questionnement après du rapport au réel. Quel type de rêve on cherche à mettre en place, quel type de réalité on cherche à faire pressentir, voir. En réalité, écrire, c'est en partie chercher à faire entendre à une autre intériorité, une part de son intériorité, et sans doute quelque chose qui en soi dépasse simplement un phénomène narratif de repliement autour de son ego. Donc en réalité, derrière ces petits exercices, ces 3 dimanches d'exercice de narration, c'est un peu comment finalement on raconte le monde. On se raconte le monde et comment on essaie de faire entendre à un autre les rêves ou les aspirations, les déceptions ou les mélancolies qui nous habitent et qu'on cherche à réparer d'une façon ou d'une autre.
Alors, ces ateliers se constitueront de combien de personnes en général ?
Alors, combien de personnes ? Pour l'instant, je ne sais pas encore combien de personnes s'y sont inscrites. A priori, si on est entre 5 et 10, ça sera très bien. Hein, de façon à ce qu'on puisse bénéficier également de cette sorte d'intelligence collective qui vient dans la prise de parole autour des différents problèmes qu'on peut trouver quand on machine une histoire, quand on travaille à une intrigue, comment on fait en sorte que tout devienne un petit peu nécessaire dans son système d'écriture.
Le résultat de ces ateliers seront constitués de quoi précisément ? Est-ce qu'il y aura un ouvrage particulier ou alors collectif ?
Les fois dernières, effectivement, sur les ateliers précédents, alors pas l'année dernière où on travaillait à partir d'une écriture plateau et qui a donné lieu d'ailleurs au spectacle sur l'intelligence artificielle avec les adolescents au théâtre de Die, mais les fois précédentes, les années précédentes, l'atelier nous permettait ensuite de publier au format EPUB, au format électronique, les différentes nouvelles qui avaient été produites par les participants.
Comment s'aborde cet atelier ? Est-ce qu'il y a un processus d'élaboration ?
Alors, il y a des processus. Oui, bien sûr, il y a des processus d'écriture, il y a des contraintes un peu oulipiennes. Je rappelle que l'Oulipo, c'est cette technique, enfin, cette école d'ouvroir de littérature potentielle qui, à partir de contraintes d'écriture, nous permet éventuellement de déployer une liberté créative. Mais pas uniquement, il y a plein de possibilités en réalité de façon à libérer son écriture propre, à trouver son style singulier, à essayer de dépasser aussi ce qui nous met en concurrence très fortement dans l'écriture maintenant, dans les processus d'élaboration d'écriture. Ce qui nous met en concurrence, c'est bien entendu l'intelligence machine, les LLM, qui ont lu effectivement l'ensemble des ouvrages de narratologie d'Aristote à John Truby, de scénarios, etc., et qui sont en capacité effectivement de produire de la moyenne d'histoire. Il se trouve que derrière tout ça, il nous faut trouver un style qui soit le nôtre, qui soit le plus, ce que Gilles Deleuze appelait son devenir minoritaire, c'est-à-dire faire en sorte de faire entendre une singularité par-delà la moyenne que le langage peut éventuellement nous produire, hein, les instants préfabriqués des narrations, toutes choses que de fait les LLM font très bien, mais qu'on va chercher forcément à dépasser par des processus de créativité propres à l'humain.
Vous citiez donc ces ateliers d'écriture et l'Oulipo. Est-ce que le fait de contraindre l'écriture avec une règle, par exemple, permet justement d'éveiller encore plus l'imaginaire ?
Oh, sans aucun doute. Disons que ça permet... la contrainte créative permet de déclencher quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et donc, de fait, de déclencher des surprises. Et derrière la surprise, il y a l'apparition d'une altérité à l'intérieur même de soi. Et c'est cette apparition d'altérité qui fait tenir en réalité le discours narratif. Hein ? Et donc, oui, on peut s'appuyer sur des contraintes. La contrainte principale, d'ailleurs, d'une petite narration, c'est bien entendu de passer du début à une fin de façon vraisemblable. On va pas dire, enfin, de façon logique aussi, oui, parce qu'il y a des enchaînements logiques qui font passer d'un événement à un autre, ou d'une absence d'événement à un autre événement, ou d'une absence d'événement à un autre absence d'événement. De toute façon, c'est dans cette découpe du temps, dans cette articulation du temps, qu'on va trouver effectivement des créativités différentes. On a tous une manière différente de se raconter nos journées, en oubliant des choses, en mettant en avant d'autres choses. Derrière la notion de personnage, il y a la notion de persona, c'est-à-dire de masque. Le persona en latin, même si c'est une étymologie fausse, c'est personare, c'est-à-dire faire sonner, avec des endroits du visage qui sont libres et d'autres qu'on masque. Et de fait, la création de personnages, qui est un peu le moteur nucléaire d'une narration, c'est dans cette création de personnages qu'on va trouver des créativités nouvelles.
L'écriture, c'est aussi votre activité principale. Hein. Vous êtes auteur, scénariste de documentaires ou de courts-métrages. Mmh. Vous êtes chargé de cours également. Tout ça vous donne ces bagages pour justement mieux transmettre un peu cette notion d'écriture.
Alors ça, c'est évident. En fait, le côté transmission, c'est-à-dire le fait d'être chargé de cours auprès de jeunes adultes, d'étudiants en master, etc., me permet de tester effectivement des effets de transmission, que ça soit dans le design sonore, c'est-à-dire et la prise de parole. Et de toute façon, dès qu'on prend la parole en public, on est tenu par les trois temps d'une histoire, d'un début, d'un déroulement et d'une fin, de façon à ce que le sens de ce qui est donné puisse effectivement être le mieux mémorisé possible, le plus mémorisé possible. Après, effectivement, je suis auteur et de fait, je suis en train de réfléchir, de produire une série de conférences autour des ouvrages que je fais publier et qui des conférences avec un design sonore immersif qui dont j'ai testé le format à trajet spectacle encore fin février, le 28 février, de façon à ce que le 13 mars, normalement à la Maison des Deux Terres à Grignan, je puisse commencer à produire la première conférence entre design sonore, conférence thématique autour de ce que j'appelle les voyages ordinaires. Un voyage ordinaire étant un système d'existence, qu'elle soit humain, non humain, végétal, animal, etc., etc. Système d'existence dont je fais le catalogue dans ces romans.
Alors, scénariste de documentaire ou de court-métrage, pour vous, c'est aussi adapter l'écriture en fonction du destinataire, hein, que ce soit un cinéaste ou de technicien.
Ah oui, bien sûr.
Et donc, il y a tout un panel de langage pour s'adresser.
De fait, il y a... c'est Montaigne qui disait, hein, la parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. Et si on reste trop proche de son propre langage, si on ne s'adapte pas, si on n'a pas l'habileté d'être dans l'adresse à l'autre, en sachant à peu près ce que l'autre attend, effectivement, le langage peut tourner en rond. Le langage peut ne pas produire ses effets. Et l'effet principal, c'est pas un effet de mot d'ordre, de croyance, c'est l'effet d'une apparition d'une autre intériorité. C'est très très difficile de comprendre pour une intériorité, pour une conscience, ce que peut être une autre conscience. C'est en réalité ce que cherche à faire la littérature. C'est-à-dire chercher à faire entendre des intériorités différentes, des systèmes ou des... absences de système, mais en tout cas des systèmes perceptifs qui nous permettent de nous ouvrir à autre chose que ce que l'on perçoit habituellement.
Je reviens sur cette notion de cette écriture de ces textes. Ils sont destinés à être certainement lus. Est-ce qu'ils peuvent être aussi cités, joués ?
Oui, bien sûr. En fait... je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on reçoit par exemple un email d'une personne qu'on connaît, à la lecture, on arrive à entendre le timbre de la voix de la personne. C'est-à-dire que l'écriture est une forme d'oralité cachée. Et de la même façon qu'il y avait au moment où nos systèmes sociétaux fonctionnaient sans l'écriture, où on était sur des transmissions uniquement orales, on avait donc des écoles d'art oratoire qui nous permettaient de convaincre, de transmettre des informations, d'être le plus fiable ou le plus manipulateur possible. Les écoles de rhétorique permettaient de faire ça. On les utilise toujours aussi à l'écrit. La liste des figures de style, les effets rhétoriques sont des effets qui nous permettent effectivement de travailler le langage de façon à transmettre au mieux les informations qu'on cherche à transmettre. En réalité, derrière tout ça, il y a quelque chose aussi auquel il faut qu'on s'attache, c'est-à-dire que la parole de l'écrit... c'est par exemple, je sais pas comment, je reviendrai sur cette idée avec l'idée du gueuloir de Flaubert. Pour qu'une phrase sonne, Flaubert testait ses phrases en allant au fond de son jardin. Il s'était mis un petit lieu, une petite cabane, etc., dans lequel il pouvait gueuler ses phrases de façon à pouvoir entendre comment elles sonnent. Et en réalité, l'écriture passe également par cette oralité. Donc une page qui est bien écrite, c'est une page qu'on arrive à lire assez facilement, qu'on met à sa voix, à son timbre de voix, qui s'adapte sans doute également à notre souffle, au souffle de chacun. Et il n'y a pas tant de différence que ça entre la lecture qui... D'ailleurs, la lecture au départ des effets d'écrit, de la civilisation de l'écrit, elle s'oralisait tout le temps. Et il était presque impoli de lire silencieusement. On lisait pour les autres tout autant que pour soi. C'est ce fameux épisode entre Ambroise et Augustin, saint Ambroise et saint Augustin. Augustin arrive voir saint Ambroise pour avoir des leçons de rhétorique, justement pour convaincre mieux, voire convertir mieux. Au départ, Augustin était un rhétoricien, hein, et il tombe devant Ambroise qui lit silencieusement, et ça le surprend, ça le déçoit presque, un peu comme une impolitesse, un peu comme si le fait de faire attention à cette voix sortie du lointain, qui est la voix de l'écriture, était une impolitesse pour tous les présents qui étaient là. Un peu comme si, au moment où nous sommes en train de parler, le téléphone sonne et je prends la conversation de cette voix du lointain, etc., sans faire attention à la présence de l'autre. Donc effectivement, l'oralisation d'une page nous permet de faire entendre souvent autre chose aussi de ce qui est écrit.
D'ailleurs, au moment de l'écriture, nous nous dictons nous-mêmes le texte rédigé.
Souvent.
Et
oui, oui, souvent.
Il y a donc cette possibilité, cette syntaxe propre à chacun.
À chacun. C'est même un type de correction qu'on peut avoir. On peut écrire, effectivement, et on peut écrire silencieusement, de façon manuscrite ou devant un clavier, maintenant, très souvent. Mais la première des corrections qu'on peut avoir sur les phrases qu'on a produites, c'est simplement lire son texte à haute voix.
Il y a, comme dans l'art, parfois, des repentirs. C'est aussi ce qui peut se produire sur la feuille d'une rédaction,
bien sûr, oui.
Avec ses griffouillages, ses ratures. Je voulais savoir, est-ce que, justement, l'outil informatique ne permet plus trop ça, puisqu'il y a moyen d'effacer instantanément et de reprendre est-ce que ça amène une nouvelle dimension? Est-ce qu'on sait ce qu'est l'humain dans cette rédaction, puisque...
C'est une bonne question. La question de l'écriture manuscrite aussi. C'est-à-dire que derrière son écriture manuscrite, il y avait même une science ou un art, je ne sais pas, de la perception d'une personnalité derrière la manière qu'il avait de chorégraphier son écriture sur une page. Derrière le fait de taper son texte, on arrive à une forme d'uniformisation de la pensée écrite. Et en même temps, il y a quelque chose qui est de l'ordre, là encore, de l'altérité. C'est-à-dire que très souvent, le passage de quelque chose qu'on a écrit à la main à quelque chose qu'on recopie, qu'on tape au clavier, nous permet de découvrir des formes parfois plus stables de phrases. Et sur la question du repentir, sur la question du brouillon, de la rature, c'est quelque chose qui semble disparaître dans le système informatique. Je dis qui semble parce que pour produire, pour écrire relativement souvent et de plus en plus souvent directement à la machine, je sais que je fais des versions successives que je nomme pas toujours le fichier de la même façon à pouvoir garder trace des chemins d'accès au texte final. Alors, c'est bien entendu pas le même système que la rature, quoique la rature, elle vient également sur le texte qu'on a imprimé et qu'on vient corriger à la main. Donc, il y a, de toute façon, dès qu'on passe d'un média à un autre, il y a comme dans toute forme de métamorphose d'outils, il y a des progrès et il y a des regrets. On paye nos progrès de nos regrets.
Justement, par rapport à cette écriture, vous avez été aussi producteur, auteur pour une émission, La Luciole.
Pour France Culture, oui.
Pour douze voix, oui. Mm-hmm. C'est traité du philosophe italien Lucio Vanini, boulé à Toulouse, un peu comme Giordano Bruno.
C'était
cette même période. Donc, est-ce qu'il y a justement ces affirmations de ces penseurs de l'époque
Alors, ce qui était
très intéressant. Existe encore cette vindicte contre ce type de personnes.
C'est des vindictes qui peuvent exister encore. C'est, là, en l'occurrence, Lucilio Vanini était un philosophe, certes, mais qui jouait avec les crédulités, avec ce qu'il appelait des crédulités. C'est-à-dire qu'en réalité, il a joué à être catholique, il a cherché à parvenir à la cour... en tant que religieux italien, parvenir à la cour du roi de France. Un scandale l'envoie en Angleterre, il devient anglican. Et puis, un autre scandale l'oblige à partir d'Angleterre. Il arrive à Lyon et là, il publie un livre où il explique qu'en réalité, il ne croit pas. Il ne croit pas en Dieu, etc. Et en fait, c'est à partir du moment où il dit croire, ne pas croire, que le problème commence. Et donc, c'est effectivement notre rapport à la vérité que les problèmes commencent. Notre rapport à la vérité qui, dans certains temps historiques, se tendent, qui était interrogé par ce parcours un peu particulier, qui à l'époque où je l'ai écrit n'était pas si connu que ça, et qui, je sais que maintenant à Toulouse, il y a sur la place des Salins, là où il a été brûlé, où on lui a arraché la langue, il y a maintenant une plaque et je crois même une statue en l'honneur de Lucilio Vanini.
L'écriture ou la langue tiennent aussi compte de la musicalité de la langue. Mm-hmm. Pour vous, c'est aussi, peut-être pas une nécessité, mais quand même un outil justement pour pouvoir...
Alors c'est un outil, c'est d'ailleurs un outil, donc c'est un outil de transmission certes. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé aussi à Trajet sur l'outil audio guide auquel RDWA d'ailleurs nous apporte un concours en prêtant des bornes d'écoute au cours. Alors c'est au cours de la semaine du 24 au 28 mars avec deux bornes d'écoute à la médiathèque d'IWA Vercors, là, à DI, et puis à l'office de tourisme. Et ces bornes d'écoute vont nous permettre de faire entendre des textes écrits par des anciens de DI sur leur mémoire de ce qui se passait à DI dans les années 40, 50, 60, de façon à faire entendre finalement une sorte de patrimoine matériel par la voix et faire entendre autre chose que le discours officiel patrimonial. Sur les pierres, comment en fait ce décor a-t-il été vécu par ses habitants dans ces années où l'informatique n'existait pas encore, où les formes de sociabilité étaient différentes, de fait, comment on faisait société à cette époque-là, comment on se rencontrait dans la rue, comment les vogues s'organisaient, comment le dancing, le pala permettait de se rencontrer, comment on travaillait auprès des abattoirs, au centre de DI, etc., etc. Et en fait, derrière le timbre des voix de nos anciens, il y a effectivement quelque chose qui se transmet de façon beaucoup plus affective que derrière le cartel ou que par le cartel ou le discours officiel d'un historien sur... En fait, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là qu'on cherchait à faire, une sorte d'archéologie sonore également. C'est-à-dire comment on peut redécouvrir dans un quartier l'ambiance sonore d'une époque.
Je reviens donc sur cette notion d'outil, de cette musicalité de la langue. Et pour cela, vous avez participé à la création d'enregistrements musicaux.
Oui.
Et je ne sais pas si les paroles en leur place aussi.
Ah, si, beaucoup, beaucoup. Je viens effectivement... Mon premier métier dans les années 90, c'était la chanson, l'écriture de chansons pour d'autres ou pour moi. Et de fait, je travaillais beaucoup sur les masses sonores qui changeaient de sens en fonction de leur contexte. Donc, c'est la musique et c'est le point d'horizon de la parole, de toute façon. C'est là où la parole cesse, d'une certaine façon. En tout cas, cette manière de transmission de sens ou de direction posée aux syllabes, il n'en reste pas moins qu'il y a des phrasés musicaux, comme il y a des phrasés dans la manière dont on parle. Il n'en reste pas moins aussi que ce sont... aussi bien la parole que la musique, ce sont des objets de temps, avec un temps d'attaque, le souvenir du début de la phrase et l'appréhension de sa fin. Et c'est comme ça qu'on entend la musique aussi, c'est dans cette articulation au temps qui est un peu l'équivalent d'une articulation narrative entre un début et une fin.
Alors, je reviens un peu sur ce stage d'écriture de fiction. Peut-on déterminer ce que signifie fiction ?
Ah, grande question. Plusieurs choses. Fiction, ça peut être simplement une manière de raconter le monde. C'est-à-dire qu'en réalité, à partir du moment où on fait le choix des événements qu'on raconte, on masque effectivement tous les instants morts ou qu'on considère être mort, qui peuplent nos existences. Et donc, il y a une forme de création de fiction dans ce masquage. Derrière ce masquage, on peut aussi commencer à faire vibrer ce qui aurait pu être, et donc créer des univers de compensation à la seule réalité qui semble se dérouler. En même temps, on sait bien qu'en théorie physique, il est possible de penser des univers parallèles, et ces univers parallèles peuvent avoir autant de réalité que l'univers unique dans lequel on semble être tenu. Donc la question de la fiction, c'est la question de la narration. Et quand on parle de storytelling, de narratif, on sait que, et même dans les sensibilités politiques, il y a des narratifs, il y a des storytelling, etc., qui prennent en compte plutôt tel élément plutôt que tel autre. Et dans l'esprit d'une époque, il y a également, dans ce que j'appelle le phonotope, dans l'air du temps, il y a des effets de fiction qui font que on s'accorde sur un réel, tous ensemble, alors que il est vraisemblable que ce réel n'est qu'un réel symbolique, n'est qu'un réel de passage, que nos constructions de frontières sont des constructions. Par exemple, quand je lis Ovide dans son exil et qui se retrouve en Pannonie, confronté à des villes qui n'existent plus, à des peuples qui n'existent plus, mais qui se considéraient comme des peuples ou comme des nations constituées, je sais qu'il y a des effets dans la réalité, des effets d'illusion collective qu'on peut appeler, à proprement parler, des fictions.
Le regard, l'écoute, l'ouïe sont aussi des sources de l'écriture. Vous parliez donc de Ovide, donc
des métamorphoses.
Et vous disiez se retrouver dans une ville, pour lui, ça a modifié son regard, sa perception de ce qui l'entoure, de son monde.
Entièrement.
Par exemple, aujourd'hui, il y a ces villes avec ces rues hautes et étroites, sans horizon possible, contrairement à ce qui se passe dans le Diwa, d'ailleurs.
Bien sûr, oui.
Et pour vous, c'est aussi...
Oui, c'est effectivement ce qui se constitue dans une appartenance commune à un territoire, à un paysage. Et cette appartenance commune, elle se constitue de sensations. De sensations d'existence, de sensations de rapport au ciel, de rapport à l'espace, de rapport à la verticalité ou à l'horizontalité, au paysage, à l'horizon. Parce que, bien évidemment, ces rapports à l'espace sont des rapports au temps également, c'est-à-dire à des ouvertures différentes en soi, des manières d'habiter le monde différents. Pour le coup... c'est surtout aussi le fait de se sentir d'ici ou de là qui pose la question de la fiction. Je me suis toujours senti un peu d'ailleurs à chaque fois. Et c'est cette question du nomadisme intellectuel qui est intéressant, parce que à partir du moment où on se met à voyager, on se confronte à des phénomènes de fiction collective auxquelles on ne pensait pas, des us, des coutumes, etc. Et c'est dans le voyage qu'on peut se réinterroger sur nos propres manières de concevoir le monde.
D'ailleurs, j'imagine que vous avez opéré ces ateliers d'écriture en urbain, en ville, et ici, Diwa, ville rurale. Est-ce que la teneur des propositions d'écriture diffère beaucoup, justement, par rapport à ce cadre, la campagne,
hein. Ça diffère en décor. J'ai pas l'impression que ça diffère. Ça diffère tout simplement parce qu'il y a des différences de personnalité, des différences de créativité, etc., qui sont simplement irréductibles. Chaque subjectivité est réductible l'une à l'autre, même s'il y a des rêves qui peuvent paraître communs. Sur l'appartenance à un territoire ou à une ville, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de différences que ça. Tout simplement parce que nous sommes maintenant, à notre époque, plongés dans le même flux d'informations, d'une certaine façon, qu'on soit en ville ou en campagne. Ce qui diffère, c'est la manière de vivre son quotidien, mais cette manière de vivre n'influe pas tant que ça sur l'imaginaire.
Le média, justement, très envahissant, hein, on est sollicité sans cesse, que ce soit par notre téléphone, Internet, la télévision, la radio. Quelle est notre place pour penser, justement, avec ce flot?
La lenteur. Pour retrouver son espace intérieur, il y a sans doute quelque chose qu'on... Ça a été une mode à un moment. Je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir du côté du slow acting, comme ils disent, ou en tout cas de retrouver une forme de lenteur de pensée. Retrouver une forme de vide intérieur aussi, de silence, qui est propre à la conscience, à la déconnexion, le silence qui est simplement une interrogation sur une interrogation ouverte. Sur le sens des choses, ou en tout cas sur le sens de ce qu'on perçoit. Ce qui est très difficile à vivre dans ce flot dont vous parliez, c'est souvent un flot de réponses. Des réponses qui amènent à d'autres réponses, etc., plus que des flots de questions.
Il y a donc cette transmission hein, que vous opérez au sein de l'université à Paris 13 pour l'écriture, le web, le design, l'interface, etc. Pour cela, vous avez face à vous des jeunes adultes. Quelle est la place de l'intelligence artificielle dans cette transmission? Est-ce que vous en percevez aussi une certaine utilisation de leur part?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et en fait... ça serait assez hypocrite que de ne pas le percevoir. En réalité, ChatGPT est apparu en fin novembre 2022. Dès avril 2023, les mémoires que je suivais pour beaucoup étaient aidées par le LLM. S'il est bien utilisé, le LLM est un superbe outil intellectuel de brainstorming. Il faut savoir l'utiliser en augmentation éventuelle d'une recherche intellectuelle, et non pas en remplacement, parce que bien entendu, son mode de fonctionnement, c'est un mode de fonctionnement statistique, c'est une machine stochastique qui vient chercher au milieu de l'ensemble de ces données la réponse moyenne qui nous permet effectivement de produire du texte qui a du sens, alors que lui-même, le LLM, le robot, ne comprend pas ce qu'il dit, et en cécité sémantique, d'où l'ensemble des hallucinations, etc. Bon, les jeunes adultes, de toute façon, se sont emparés de cet outil parce que c'est un réel outil, et de fait, il y a une différence entre les mémoires que je suivais auparavant, avant l'arrivée des LLM, et les mémoires d'après. Je demande aux étudiants qui essaient de s'en servir pour le mieux de ne pas avoir cet esprit de triche, c'est-à-dire de ne pas s'en servir comme on triche, et de me montrer les prompts qui leur ont permis d'obtenir tel ou tel type de résultat. Et à partir du moment où on est clair sur la place donnée à la machine dans la production intellectuelle, ça nous permet de déclencher effectivement d'autres types d'ailleurs du rapport au langage, parce qu'on est souvent tenu par son propre vocabulaire, par son propre champ, sémantique, par ces tics de langage, etc. Et ces machines-là nous permettent éventuellement d'explorer d'autres types de champs sémantiques, d'autres types sémiologiques, de rapports au sens. Et bon, il y a plein de choses, hein, il y a plein de choses à interroger derrière cette technologie, son empreinte écologique, savoir... En fait, quand j'en parle aux étudiants, c'est simplement aussi faire une sorte d'acculturation aux différents types de modèles, savoir qu'on ne va pas utiliser un modèle qui, pour percer un trou, on n'est pas obligé d'utiliser un marteau-piqueur. Et pour utiliser un LLM, on n'est pas obligé d'utiliser uniquement les modèles les plus performants en raisonnement, c'est-à-dire les modèles qui ont retrouvé un rapport au temps et qui bouffent effectivement beaucoup d'énergie.
À l'heure actuelle, je reviens sur cette intelligence artificielle qui nous propose à toute demande un texte établi. Est-ce qu'il a aussi, je ne sais pas si au niveau des algorithmes, il existe une possibilité d'entrevoir aussi cette création numérique de l'écriture et avec ses doutes, ses ratures aussi?
Oui, alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on est capable de donner une personnalité à une intelligence artificielle, de la poster dans un rôle particulier. Et c'est d'ailleurs quand on la pose dans un rôle particulier qu'elle devient très intéressante. Elle nous permet en réalité sur la créativité et sur l'écriture, en plus des recherches universitaires qui sont facilitées, et des recherches approfondies, elle nous permet d'ouvrir des champs de questionnement sur ce qu'on produit, d'augmenter éventuellement ce qu'on produit, ce qu'on aurait pu produire par le questionnement qui mime d'une certaine façon le questionnement intérieur qu'on pouvait avoir devant notre feuille.
Je reviens pas. Sur les réseaux sociaux, beaucoup s'expriment au travers d'un clavier. Cet outil, justement, a-t-il permis d'ouvrir plus l'expression écrite, orale, que l'écriture en elle-même?
Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on les a pris comme... on les a pris comme des possibilités données à tout le monde. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. On est passé d'un système médiatique one to many, du mass media où quelqu'un parle à tout le monde à la fois, à un système médiatique du many to many où tout le monde parle à tout le monde à la fois. Donc les réseaux sociaux ont permis de donner des outils de publication à l'homme ou la femme ordinaire. Et donc on pouvait penser dans un premier temps que ça pouvait entraîner, que ça aurait pu entraîner une délibération démocratique un peu plus importante que ce que ça a entraîné, que c'était un outil un peu à la façon dont Walter Benjamin disait que la photographie était l'arrivée de l'homme ou de la femme ordinaire à la visibilité, parce qu'auparavant, avant la photographie, pour avoir son portrait de famille, il fallait être suffisamment riche pour se payer le service d'un peintre. La photographie nous a permis à chacun d'avoir une représentation. Effectivement, les réseaux sociaux, les blogs auparavant, mais les réseaux sociaux ont permis à chacun d'avoir accès aux outils de publication. Le problème, c'est que les algorithmes qui ont entraîné ces réseaux sociaux, sur lesquels s'entraînent ces réseaux sociaux, sont des algorithmes de commerce. Vous avez aimé ça, donc vous aimerez forcément un peu ça, etc. Et donc, s'est mis en place des bulles de rétroactives où on va finir par ne voir que des personnes qui ont nos propres opinions. Donc le côté délibératif et démocratique a entièrement disparu derrière l'algorithme.
Ce qui amène à l'entre-soi, en quelque sorte.
Ce qui amène à l'entre-soi, ce qui amène à des créations de communautés qui sont de plus en plus, solides, parce que rencontrant uniquement des personnes qui pensent la même chose qu'elles.
Voire sectaristes.
Et sectaristes, oui, d'une certaine façon.
Par rapport à votre activité artistique, est-ce que vous pouvez nous parler de cette compagnie Harpo ?
Harpo, c'était au départ, dans les années 90, une association, et c'est toujours une association, un regroupement d'artistes qui permettait aux artistes de faire tourner leur musique, puisque c'était principalement au départ de la musique. C'est devenu un label de musique enregistrée aussi. Ça suivit un peu les évolutions du métier, sa numérisation également. Ça a été aussi l'occasion pour moi d'avoir un outil de travail qui me permette de faire découvrir des expressions artistiques un peu différentes et puis surtout de continuer à réfléchir sur nos accès au savoir de façon différente, par exemple, produisant des livres audio, des podcasts, de textes que je trouve nécessaires à faire entendre, nécessaires à faire lire. Ça a été le cas pour le discours de la servitude volontaire de la Boétie, qui est devenu un livre audio et un podcast. Ça a été le cas aussi récemment en partenariat avec les éditions Passiflore du livre audio de L'Homme Semence de Jean Darrow. Ça a été le cas aussi de cette émission qui avait été vendue à France Culture sur Lucilio Vanini. C'était le cas aussi du livre audio de La brièveté de la vie de Sénèque, qui sont tous des textes auxquels je pense se confronter nous permet de nous ouvrir.
François Lauzé, merci beaucoup pour tous ces propos. Le temps nous manque pour en débattre plus. Je rappelle donc ces propositions d'ateliers qui auront lieu dans les locaux de Trajet Spectacle.
C'est ça.
Sous la salle polyvalente.
Les 1er février, 15 février et 1er mars, les dimanches de 10 à 17 heures. Je voulais aussi, outre l'audio guide dont j'ai parlé tout à l'heure, vous dire que le 7 février à Trajet, il y a des moments de lecture à voix haute à l'initiative de Violaine Roméas, qui est un stage de théâtre d'ombre sur 3 jours du 20 au 22 février avec Violaine Roméas et Lormel Merdrignac. Et je pense que je n'ai rien oublié de ce qu'on m'a demandé de vous dire.
Trajet spectacle 26@gmail.com, c'est l'adresse mail pour s'inscrire. Je vois là sur l'imprimé spectacle, il manque un E. Est-ce que c'est voulu ou alors c'est peut-être
non, sur l'imprimé là. Non, c'est pas voulu hein, sur l'adresse mail.
Donc il y a une petite faute là, je couperai hein. Voilà. Donc je précise pas ça. Et puis il y a le site internet de Trajet spectacle hein, pour connaître un peu son actualité. Eh bien François,
merci beaucoup.
Merci.
Bonne
soirée.
Merci. Moon.
El sol, el primer sol. Ellas sostienen el primer sol. El sol de la ruina sostienen al sol de la angustia, angustia, al pecho de la ruina, ellas al sol, primer pecho de la ruina, de sol, de silencio, al sol. Pro ima, su, 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 pro ima, sous, os,
la,
un,
sous,
des,
la,
un,
sous,
os,
la,
ima, des, sous, los, los,
sous,
des,
in,
et, os,
sous,
ima,
des, sous,
os,
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 des,
ima,
in,
sous,
de,
la,
somme,
tierra. Absurdo. Necessitamos, falta, 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 aven, mal, aven, lismos,
turas,
ta, 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 ta,
costuras,
de, vida,
sa,
de, su, vida,
sa,
vida,
sa,
de, costumbre,
sa,
su, vida,
sa,
su, falta. La
es se fue
de
es
la
da
es pal pal
da pal
la
se es
dare
is
la
is
la
da
la
da
la
pal da da
estas aguas sostienen el primer silencio al sol. Sombra propicia, oscura imagen de la tierra. Vamos a adelantar un pie sobre el absurdo. Conocerte, mundo incierto y animal. Ríos cavan la verdad silenciosa. Necesitamos su virtud, su falta de costumbre.
La
da 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 da